Et bonjour à tous, heureux de vous accueillir dans ce magazine de nature et d'environnement jusqu'à 15h. Donc CO2, mon amour, avec Anne-Laure Cochet et Éric Morin à la technique. Assisté de Jean-Baptiste Audibert, c'est Xavier Pestugia qui réalise cette émission. Une petite humeur naturaliste, allez, une petite humeur. Je suis formé par l'accumulation d'épaisses couches de neige. La pression a transformé cette neige en glace. Je glisse sur deux rails, je traîne des débris de roches qu'on appelle des moraines. Je suis, vous avez deviné, un glacier. Très beau métier à l'origine, glacier. J'ai signé mon CPE il y a des millions d'années. J'étais très content, je suis vite devenu un CDI. Avenir, plan de carrière remarquable. J'ai choisi ce métier de lenteur, de force, de beauté. Mon boulot, c'était de nourrir les fleuves. Je régulais le climat. J'étais pas là pour faire monter des océans. Mais je ne croyais pas que ce job était aussi dangereux. Alors c'est sûr, avec la fonte des glaciers, vous ne regarderez plus votre apéritif on the rocks de la même manière. Maintenant, je maigris, je suis au régime forcé. Plus de pain, moins de neige, que de l'eau qui transpire de mon corps. Je n'arrive plus à me reconstituer. Et alors quand j'en parle à mes collègues évidemment de Patagonie, d'Argentine, du Groenland, des Alpes, c'est pareil, hein, ils sont tout aussi transparents maintenant. Vous savez, être glacier au 21e siècle, les jeunes, je vous conseille vraiment pas ce métier. Alors parlez-moi évidemment du petit âge glaciaire, ça c'était hier, ou bien mieux, il y a 120 000 ans, vous vous souvenez, c'était extraordinaire. La France, l'Europe recouverte de glaciers, des mammouths qui gambadaient partout dans le Périgord à la place des Anglais, c'était formidable. Aujourd'hui, on apprend à nos enfants, ainsi fondent les petits et grands glaciers de la planète. Alerte à Malibu, la banquise fond. La NASA, les satellites, les climatologues de tout poil nous observent, sont à notre chevet, ils prennent notre pouls. Et la cause, vous la connaissez, c'est vous. C'est vous les humains. Bon, vous me direz, certes, dans notre histoire, on a toujours régressé, augmenté, mais on savait s'adapter. Ça faisait partie du boulot de glacier. Seulement, ce yo-yo-là se faisait sur des centaines ou des milliers d'années. Donc on avait le temps de s'y faire. Là, en 150 petites années ridicules, vous avez cassé le thermostat. Maladroit, imprévoyant que vous êtes, 95% de l'humanité s'en fiche complètement. Coup de chaud sur la finance, sur la consommation, sur les cerveaux, surtout, faut aller vite, accélérer et faites chauffer la colle. Bonjour l'ambiance. J'accélère au feu rouge, vroom vroom. Je fais verser une lame au glacier. Je monte le chauffage à 21 degrés. Ah, le glacier n'aime pas, il est en sueur. L'agriculture, l'élevage dégage du méthane. Je consomme à ma guise. Les raffineries dégueulent du CO2 et l'ours blanc fond sur la banquise. Non. Le vrai problème aujourd'hui, c'est de savoir quand la télévision arrivera sur nos portables. Donc, glaciers, hommes, animaux, nature, tous dans la même éprouvette. Je mélange. Que va-t-il ressortir? Surprise. Non, les enfants, ne faites pas ce métier-là. J'ai beau être glacial, j'ai quand même de l'humour, vous savez. Est-ce que vous connaissez la particularité des vaches du Groenland, hein? Eh bien, ne regarde plus passer les trains, seulement les glaciers. Ben voilà, donc je vous l'avais promis, ils sont tous là, Anne Chaon de l'AFP, Fabrice Nicolino, Claude-Marie Vadreau, pardonnez-moi, je cherchais Nathalie Fontrait que l'on va voir au téléphone, ça vous inspirait des choses, Claude-Marie Vadreau, ces petites...
Ben oui, la mer monte.
Oui.
Alors je vais dire, commencer par une horreur, ça va faire disparaître tous les immeubles laits qu'on a construits le long de la mer.
Bien sûr, voilà, oui, avec cette loi littorale qu'on essaie de grignoter un petit peu aussi, hein, de temps en temps.
C'est la mer qui va la grignoter.
Et c'est la mer, effectivement, qui va la grignoter. Donc, vous êtes une parole très très libre, vous l'avez compris, aujourd'hui, avec nos différents invités. Et puis, que vous dire de plus? Si, effectivement, qu'on a beaucoup de sujets, on va s'intéresser aussi aux pesticides, on va s'intéresser aux ours, ce sera dans quelques instants.
Bonjour, en ce samedi 1er avril, merci de nous avoir fait sourire sur un sujet qui n'est pas tellement drôle, mais très bien, le MRP, Mouvement de Récupération de la Pollution. C'était drôle, merci, mais il aurait peut-être fallu le préciser. Tout le monde n'a peut-être pas l'esprit facétieux. Moi, j'ai pensé que c'était pour le 1er avril, mais c'est peut-être une vraie association, j'en sais rien. Enfin, ça a fait sourire et en ces jours un peu gris, c'est très plaisant. Merci, continuez, au revoir.
Oui, salut, c'est Pascal. Il paraît que le baril de pétrole, il est passé à 200 $. Bon, ben voilà. Ah oui, je voulais te dire, au fait, ton message là concernant le RPP, C'était un poisson d'avril, non, tous ces types-là qui voulaient maintenir la pollution. Non mais j'espère que c'est pas vrai, hein. Tu vas quand même pas cautionner ces horribles individus, hein. Parce que là vraiment tu serais pas Denis chez Sous, mais tu serais Denis Paradoxe.
Oui, bonjour Denis, bonjour à tous, c'est Jean-Gilles de Niort. J'appelle car je souhaiterais être membre actif du MRP, du Mouvement pour la Réhabilitation de la Pollution. Et effectivement, moi à mon niveau, je participe aussi à cette pollution. Et je peux le prouver, car effectivement, tous les jours, je fais mes besoins dans de l'eau potable. Voilà, donc je participe concrètement à ce beau geste.
Ben voilà, écoutez, moi j'ai dû répondre à peu près à 150 courriels. Écoute, quand vous avez un 1er avril qui tombe à samedi, à mon avis, il ne faut pas le louper. Donc c'était bien le MRP, le mouvement de réhabilitation de la pollution. Beaucoup ont désiré prendre leur carte. Je vous en remercie de tout cœur. D'ailleurs, ce que dit ce monsieur quand il parle du baril à 200 $, on n'y est pas encore, évidemment. Mais je veux dire que...
Ce serait une bonne nouvelle pour la planète.
Eh ben oui, c'est ça. C'est-à-dire que, c'est toujours pareil, parce qu'il y a des gens, évidemment, qui ont besoin du pétrole, qui habitent loin, etc. Et c'est pas simple, mais on se dit peut-être qu'on va peut-être se calmer avec l'énergie si ça monte encore un petit peu. Et puis ce monsieur disait aussi assez justement, lorsqu'il parlait de l'eau potable pour ses toilettes, quand on sait que 40% de l'eau qu'on utilise dans les chasses d'eau, pas passe dans les chasses d'eau, c'est parfois un peu une hérésie, hein, c'est-à-dire aussi qu'on utilise de l'eau potable pour ça, quoi. Les uns les autres. Hein,
ouais. Bah oui, c'est complètement fou. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre?
Il faudrait évidemment avoir un double réseau, mais ce n'est pas forcément très simple encore. Quoi. Donc,
Non, mais c'est d'autant plus scandaleux qu'il y avait il y a 8 jours le Forum mondial de l'eau à Mexico. Ouais. Et où ça a été l'occasion de rappeler les chiffres absolument terrifiants d'adduction à l'eau et d'évacuation surtout, et la mortalité. Mmh. On a 9 000 morts par jour, dont la moitié d'enfants, à cause des problèmes d'eau, soit d'adduction, soit d'évacuation. Donc c'est vrai, nous tirer une chasse d'eau potable, quelque part ça doit titiller nos consciences. On devrait y penser tous les jours.
On va partir en musique et puis on vous rejoint tous dans quelques instants pour cette ronde des journalistes.
Encore une nouvelle frontière de pierre, de sabre et de canon pour séparer les frères du même sang. Partout c'est la même histoire qui se répète. La guerre, l'héroïsme sont les mots de la planète. Après le feu et les flammes, que reste-t-il si ce n'est la cendre et la terre qui brûle? Regarde, le soleil passe les frontières sans que les soldats ne lui tirent dessus.
La colombe a les mêmes ailes. À Gaza ou Jérusalem, Jérusalem, Jérusalem. Salam alaykoum. Assur fil lawan. Salam alaykoum. Alaykoum shalom. Salam alaykoum. Assur fil lawan. Salam alaykoum. Alaykoum la paix.
Pourquoi cette haine depuis trop longtemps? Pourtant les trois livres parlent des vers d'Adam. La violence, la peur, la vengeance, que sème le nouveau prophète des finances. Je suis né d'hier mais je suis de demain. Quelles que soient mes racines, je resterai humain. J'irai partout chanter cette chanson au nom du pouvoir de l'argent. Ne sacrifiez pas vos enfants. Pourquoi cette haine depuis trop longtemps? Pourtant les trois livres parlent des vers d'Adam.
Respect pour toutes les religions. La Bible, la Torah, le Coran, le Coran, le Coran. Salam alaykoum. As-suluf al-awan. Salam alaykoum. Alaykoum shalom. Salam alaykoum. As-suluf al-awan. Salam alaykoum. Alaykoum la paix. Salam alaykoum.
C'était Aclidé, notre première chanson. Je pensais à ça parce que l'Aclidé, on va passer nous au nucléide, c'est tout à fait autre chose en parlant de Tchernobyl. Bah, vous le savez, dans la nuit du 25 au 26 avril 1986, donc avarie du quatrième réacteur de la centrale qui s'emballe suite à une expérience plutôt mal maîtrisée et donc qui explose. Alors, sont allés sur place Claude-Marie Vadreau tout à fait récemment et puis aussi vous, chère Nathalie Fontrelle. Bonjour Nathalie.
Bonjour à tous et pardon de ne pas être parmi vous.
Mais vous êtes dans votre printemps, vous êtes à la campagne, c'est bien aussi, vous en avez besoin et ne vous en faites pas, tout va bien. Peut-être d'abord première question effectivement à Claude-Marie Vadreau, lorsque l'on part là-bas on peut un petit peu s'inquiéter, quand vous arrivez quand même dans un milieu extrêmement radioactif, donc quelles précautions on prend ?
Oui, c'est radioactif selon le système des taches de léopard, c'est-à-dire qu'on peut faire 10 mètres, avoir beaucoup de radioactivité et puis ensuite beaucoup moins. Eh bien, on part avec des balges qui enregistrent la radioactivité que l'on reçoit. Ce fut mon cas, c'est le cas de Nathalie également. J'ai pour ma part reçu 35 millisieverts, ce qui signifie, traduit par les spécialistes, que j'aurais pu rester là-bas 56 jours sans mettre en danger ma santé.
D'accord.
Il faut rapprocher ce chiffre du fait qu'il y a des gens là-bas qui y travaillent 11 mois sur 12.
Alors donc ça a été ça, votre enquête aussi, donc Nathalie Fontrelle et donc à tous les deux, vous avez vu donc ces personnes qui vivaient autrefois dans l'ancienne URSS, hein, aujourd'hui donc c'est l'Ukraine et aussi la Biélorussie, parce qu'en fait c'est aussi ce pays qui a pris presque le plus de radioactivité, je crois 70%. Comment est-ce que l'on vit là-bas aujourd'hui avec cette radioactivité 20 ans après, Nathalie ?
Alors la Biélorussie, nous n'avons pas eu l'autorisation d'y aller. Les autorités biélorusses ont refusé notre visa. Mais nous y étions allés il y a 10 ans, d'ailleurs avec Claude-Marie Vadreau, et on a vu effectivement comment on essaye de vivre en respirant, parce que malheureusement il fait froid, donc il faut brûler du bois, il y a des forêts, donc on brûle du bois contaminé, et fatalement on en respire des poussières. Comment on vit en
c'est-à-dire
mangeant.
C'est-à-dire que l'écosystème forestier recycle très très bien la radioactivité.
Oui. Alors là, il est très performant dans ce domaine-là, c'est-à-dire que les arbres pompent la radioactivité qui est dans le sol, c'est du césium-137. Ce césium arrive dans les feuilles retombent par terre, c'est la litière, là poussent des champignons qui par ailleurs sont mangés par des sangliers, etc., 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 et puis rendez-vous dans je ne sais pas combien de centaines d'années pour que la situation redevienne normale.
Et alors, en ce qui concerne donc les victimes, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'experts, de contre-experts dans tous les sens qui vous disent il y en a eu 4000, non, il y en a eu des dizaines de milliers, il y en a eu moins que ça. Bon, qu'est-ce que l'on constate aujourd'hui, Nathalie ?
Alors, on nous dit, en tout cas l'ONU et l'AIEA, l'Agence internationale à l'énergie atomique, nous dit qu'il y a eu 45 morts et qu'il devrait y avoir 4000 morts des suites de cette catastrophe. Mais tous les médecins qu'on a rencontrés là-bas vous disent « Mais comment peut-on solder les comptes, en quelque sorte, si vite ?» C'est impossible. La radioactivité a des effets à long terme. Imaginez, par exemple, qu'on décide, dans les années 70, que voilà, l'amiante a fait tant de victimes et ça n'ira pas plus loin. On l'interdit et puis, de toute façon, voilà, il y a 4000 morts, terminé. Mais attendez, l'amiante, comme chacun le sait, c'est une maladie qui évolue et qui se déclare très longtemps après avoir été exposé au risque. Pour la radioactivité, c'est pareil. Donc tous les médecins qu'on a rencontrés là-bas nous ont dit « Mais attendez, les chiffres de l'AIEA, d'ailleurs, ce sont les mêmes qui ont été donnés presque au lendemain de la catastrophe. Et on ne peut pas s'arrêter maintenant. Il faut faire des études épidémiologiques. On sait que les liquidateurs souffrent de deux types de leucémie. On sait que les premiers à avoir réagi, entre guillemets, de façon pathologique, ce sont les enfants qui ont développé des cancers de la thyroïde. Il y en a déjà 4000. Mais on est en train de remarquer des choses parfaitement étranges. Je suis allée en Russie, dans les territoires contaminés, où vous avez des enfants, des gamins, qui souffrent de cataractes. Ils sont quand même, ça, c'est une maladie, j'allais dire, peut-être pas de vieillards, mais en tout cas d'adultes mûrs.
Ça veut dire qu'il y a d'autres donc maladies qui se déclarent.
On ne sait pas, Denis, si c'est lié à la radioactivité. Oui. C'est pour ça qu'il faut faire des études épidémiologiques. Il y a aussi des enfants qui souffrent, Ils ne s'en plaignent pas, mais quand on fait un examen médical, on s'aperçoit qu'ils ont des arythmies cardiaques. Tiens, pourquoi ? Et c'est des gosses qui bouffent tous les jours du césium-137. parce qu'ils n'ont pas les moyens de faire autrement. Parce que papa et maman, ils n'ont pas les moyens d'aller au magasin. Donc, on mange les légumes du potager, on mange le pain qui a été fait à partir des céréales qu'on a plantées sur des territoires contaminés. Enfin, c'est, moi, je trouve ça épouvantable.
Lorsque, y a l'argument qu'on avait déjà entendu, vous et moi, c'est-à-dire que lorsqu'on vous dit, par exemple, le nucléaire fait moins de morts que les mines de charbon. Lorsqu'on regarde les chiffres dans l'absolu, on va se dire c'est vrai, à part que ça va durer pendant combien de temps? 40, 50, 100 ans, 200 ans, on ne sait pas.
J'ai souvent entendu ça, effectivement, eh oui. Denis. Et à chaque fois, la question que je pose tout de suite, c'est mais vous êtes allé à Tchernobyl, vous êtes allé en Ukraine, vous êtes allé en Biélorussie, vous êtes allé dans les territoires contaminés en Russie. Généralement, la réponse est non. Quand il y a un coup de grisou dans une mine de charbon, c'est une véritable catastrophe pour les mineurs de fond qui meurent à l'intérieur. C'est une catastrophe en surface pour les femmes, pour les familles de ces mineurs qui pleurent toutes les larmes de leur corps. Et puis stop, c'est terminé. Or là, qu'est-ce qui se passe? C'est une catastrophe qui a eu lieu il y a 20 ans. Et ça hypothèque des générations et des générations et des générations d'habitants qui vivent sur ces territoires et dont on ignore absolument si les pathologies qu'ils développent sont liées à la radioactivité. Ça, il faut faire encore des études épidémiologiques pour le dire. Mais en tout cas, ce sont des gens qui continuent, pardonnez-moi, à bouffer du césium-137, et leurs enfants le feront, et leurs petits-enfants le feront, etc. etc.
Oui, et risquent de le bouffer par la racine. Claude-Marie Vadreau, qu'est-ce que vous avez observé, vous aussi, sur place?
J'ai observé, d'abord, qu'en Ukraine, plus personne ne vit, il n'y a plus de famille dans la zone évacuée, la zone interdite. Il y a des gens qui viennent y travailler pendant un certain temps, notamment des militaires. Et effectivement, ce chiffre de 4000, il est produit par des gens qui n'ont pas tout à fait intérêt à ce qu'on remette en cause l'utilisation du nucléaire civil. Et même les gens de l'INRS, qui est l'Institut radiologique français, disent « Oui, on a collaboré au rapport, mais on n'a pas signé le communiqué final ». C'est-à-dire que tout le monde prend des précautions avec ces chiffres. Et je constate, moi j'avais 4 ennemis liquidateurs. Ils sont tous morts. Tous les trois, des ingénieurs, ils sont morts. Et combien d'autres sont morts? Combien d'autres vont continuer à mourir prématurément, hein? C'est comme pendant la sécheresse en 2003, des morts prématurées.
Oui. Alors Nathalie, vous avez vu aussi des personnes qui souhaitent revenir, même dans la zone contaminée, parce qu'en fait elles n'ont plus rien, et qui souhaitent donc se réinstaller là où elles habitaient.
Claude-Marie, tu les as vus aussi. Quand on était à Tchernobyl, qui est une ville entre guillemets interdite, c'est dans la zone interdite, on n'a pas le droit d'y habiter, on a le droit d'y séjourner, notamment effectivement pour les ingénieurs et un certain nombre de scientifiques. Et nous, puisqu'on y a dormi une nuit, c'est une ville absolument magnifique, avec des petites maisons en briques, en bois, avec des petits jardins, ça devait être splendide. Et ça l'était d'ailleurs, c'était un lieu de villégiature, nous a dit Vladimir, qui était notre traducteur, notre interprète, pardon. Et vous vous promenez dans cette ville, puis tout à coup, vous voyez des rideaux qui bougent. Et ben là, sont ce que les Ukrainiens appellent les samosioles. Les samosioles, ça veut dire les revenants. C'est-à-dire, ce sont des gens qui habitaient là, c'est leur maison, ils en sont propriétaires. Ils ont été évacués au lendemain de la catastrophe. Et puis arrive un âge où les conditions économiques étant telles qu'on ne peut plus se loger à Kiev ou ailleurs, etc., etc. On a une maison, puis on se dit « Oh, de toute façon, maintenant, je suis tellement vieux que je ne saurais jamais si je suis mort de vieillesse ou de radioactivité, donc je reviens. »
Et puis une fois de plus, ça ne se voit pas, la radioactivité. C'est pas partie de ces pollutions qui sont...
Non, ça ne se voit pas, ça ne se sent pas. Et donc voilà, et ils reviennent chez eux. Et de la même façon que les gens qui mangent les légumes de leur potager vous disent « Bon alors voilà, j'ai le choix entre quoi ? J'ai le choix entre mourir de faim ou mourir de radioactivité. Mm-hmm. » Eh bien, on s'excuse, on va manger.
Alors, l'honnêteté quand même consiste aussi à dire dans cette émission que le professeur Pellerin à l'époque, qui était donc directeur du service central de protection contre les rayonnements, n'a jamais dit que le nuage était arrêté à la frontière. Ça avait été une interprétation. Mais le 6 mai, donc 1986, le ministère de l'Agriculture l'agriculture, lui, dans un communiqué, affirmait que le territoire français, en raison de son éloignement, a été épargné par les retombées de radionucléides et seuls les épinards alsaciens étaient interdits pendant une petite semaine. Bon, je pense quand même aujourd'hui, donc c'est vrai que la France a quand même été maintenue dans l'ignorance à cette période-là, ça changerait quand même aujourd'hui, quoi. Il faut quand même se rassurer, on a un principe de précaution, les choses seraient différentes, Nathalie.
Oui, je pense. Quand on discute avec les gens, notamment de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, et qu'on leur dit, bon, alors on va pas réécrire l'histoire, c'est facile,
non, bien sûr,
effectivement, de juger 20 ans
20
après.
20 ans après, on n'a pas les mêmes connaissances non plus,
voilà,
etc.
Voilà, on n'avait pas les mêmes connaissances, et on n'avait pas la même conscience aussi, et on ne connaissait pas, ou en tout cas pas à ce point-là, le fameux principe de précaution. C'est vrai que si aujourd'hui une telle catastrophe arrivait, on prendrait ce qu'on appelle des contre-mesures. Avec le risque, ou plutôt les risques inhérents, c'est-à-dire que ça peut effectivement provoquer une panique. En Allemagne, par exemple, on a assisté à une augmentation du nombre d'avortements volontaires parce que les femmes ont eu peur. Et en Allemagne, il y a eu des contre-mesures. On a dit, attention, vous ne buvez pas le lait, ne mangez pas les légumes à feuilles, etc., etc. Donc il y a eu des conséquences qui n'étaient évidemment pas liées à la radioactivité. Mais les femmes enceintes se sont dit, j'ai peur de donner naissance à un monstre, hein, pour parler clairement, et je préfère avorter. Bon, je pense simplement une chose, c'est que cette histoire doit dire aux autorités que les habitants des pays, et notamment en particulier les Français, sont des adultes. Mmh. Et que le risque zéro, évidemment, n'existe pas. Donc il faut cultiver la culture du risque dans notre pays. On préfère... y a AZF, alors là on découvre que c'est bizarre, ces vaisseaux, on aurait éventuellement dû éviter de construire autour de cette usine. Ah mais il y avait une loi, on l'a pas vraiment respectée, etc., etc. Non, il faut pas attendre qu'il y ait une catastrophe, c'est toujours la même chose, il y a une catastrophe, on se dit on n'a pas bien fait, et puis 6 mois après la catastrophe, on a tout oublié, et puis on fait pas non plus. Oui. Il faut absolument que chacun ait conscience qu'il peut arriver n'importe quoi. En matière de risque technologique, évidemment, mais je pense aussi au risque météorologique, au risque naturel. Quand Météo France lance un avis d'alerte rouge en disant « attention, il va neiger, les routes risquent d'être extrêmement glissantes, encombrées, enneigées, etc. » et que vous avez des gens qui se précipitent malgré tout sur l'autoroute et qui restent bloqués pendant 24 heures. Non, il faut quand même comprendre qu'on ne vit pas dans un monde aseptisé. Que ce soit d'un point de vue technologique, on a construit des trucs qui peuvent nous exploser à la figure, mais aussi d'un point de vue tout bêtement naturel.
Claude-Marie Vadreau.
Oui, je voudrais que les auditeurs comprennent bien ce qui se passe là-bas. Ça fait la quatrième fois que je vais à Pripyat, la ville de 50 000 habitants qui est totalement évacuée. Je croyais que la quatrième fois, ça ne me ferait plus rien. C'est toujours la même émotion devant ce qui est... La Pompéi du XXe siècle, une ville de 50 000 habitants où il n'y a plus personne, où il n'y aura plus jamais personne. C'est ça, Tchernobyl.
Oui. Fabrice Nicolino.
Oui, moi, je voulais apporter un tout petit bémol à ce que vient de dire Nathalie. Concernant la France, est-ce que véritablement 20 ans après Tchernobyl, est-ce qu'on peut être sûr que des mesures très différentes seraient prises En partie, je suis d'accord, bien sûr. Mais par ailleurs, je m'interroge beaucoup sur notamment le nucléaire militaire dont on ne parle jamais dans ce pays, pour des tas de raisons. Et à force de circuler beaucoup en France, comme je le fais, je me suis rendu compte que dans des villes comme Brest, Cherbourg ou Toulon, où il y a des bases de sous-marins nucléaires, où il y a une activité nucléaire militaire très, très importante, et à mon avis très inquiétante, eh bien, les gens ignorent absolument tout de ce qu'ils devraient faire en cas de pépin. Et c'est un exemple parmi beaucoup d'autres qui me fait douter du changement dans les esprits des responsables du nucléaire en France. Et j'ajouterais une chose concernant Tchernobyl cette fois. Il y a un livre absolument extraordinaire qui a paru. C'est une réédition augmentée en fait, mais ça s'appelle « Les silences de Tchernobyl ». Aux éditions Autrement. C'est vraiment un livre formidable, je dois le dire. Il y a notamment l'interview d'un grand scientifique, d'un physicien français qui s'appelle Georges Lechacq, qui en plus, je le précise,
est plutôt pro-nucléaire.
Plutôt pro-nucléaire. Sûr, oui. C'est un grand physicien. Et que dit Lechak dans cette interview proprement stupéfiante? Il émet en fait une toute autre hypothèse sur l'origine de la catastrophe de Tchernobyl, en relation avec trois scientifiques de premier plan russes. Et en fait, par exemple, il conteste tout à fait qu'il y ait pu y avoir un incendie à Tchernobyl, ce que tous les témoins pourtant décrivent. Et c'est vrai que c'est très, très impressionnant. Les témoins, d'un côté, décrivent un incendie. Et de l'autre, il y a une théorie scientifique tout à fait nouvelle qui prétend qu'il n'y aurait pas eu d'incendie, mais une très, très grande lueur, tout à fait extraordinaire. D'où vient cette lueur? Je n'ai pas le temps de tout expliquer dans le détail. Simplement, deux ou trois points précis. Un dit Lechak et beaucoup de scientifiques sur place, la peinture sur les murs intérieurs de la centrale n'ont pas fondu, les peintures n'ont pas disparu, ce qui semble signifier qu'il n'y a pas eu une élévation de la température au-delà de 300 degrés, parce que sinon ces peintures auraient fondu. Il y a quantité de mystères liés à l'explosion, par exemple l'apparition après l'explosion de 10 tonnes d'aluminium, ce qui est extraordinaire, parce que ce métal n'a pas été utilisé pour la construction de la centrale. Et je finis juste en deux phrases. Donc, nouvelle théorie scientifique basée sur une découverte de Lechak, sur les multipôles magnétiques légers. Je n'insiste pas. L'origine de la catastrophe serait un court-circuit, en fait, et ne serait absolument pas liée à l'emballement du réacteur. L'emballement serait une cause secondaire. Et ma question, une question qui me paraît vraiment fondamentale, c'est que s'il y a tant de mystères autour de la catastrophe de Tchernobyl, et donc la possibilité que quelque chose, qu'une force physique inconnue soit intervenue dans le phénomène, la question c'est tout simplement combien de mystères nous attendent encore en phase du nucléaire, et est-ce qu'il est bien raisonnable de miser sur une énergie qu'on connaît si mal?
C'est pour ça aussi que Dossier X avec Patrick Penaud a fait un très très bon dossier il y a quelques semaines sur ce thème-là, avec évidemment toutes les incertitudes.
Je l'avais écouté avec beaucoup d'intérêt.
Et donc il reste encore de nombreux points d'interrogation. Chère Nathalie, vous reviendrez dans deux semaines ou trois semaines pour une actualité de l'environnement?
Oui, je peux juste répondre sur le nucléaire militaire.
Elle va très vite.
Avec une anecdote. Le nucléaire militaire, à l'île Longue, ils ont fait un exercice de simulation de catastrophe. Et ça s'est passé pas vraiment dans la transparence la plus totale. C'était il y a quelques années, je me souviens plus, 4-5 ans. Et vous savez l'hypothèse qu'ils ont imaginée à l'époque? C'était pas un terroriste, c'était pas un souci technique, c'était une erreur humaine, c'était une météorite qui tombait sur un sous-marin nucléaire.
Bien sûr.
Vous connaissez la probabilité pour que ça se passe un jour?
C'est 6 milliards et demi, une
je
chance.
Sais pas.
On sait pas? Non, d'accord. Bon, on demandera des astrophysiciens, ils vont nous calculer ça. Merci beaucoup Nathalie, vous profitez du printemps surtout. Hein.
À bientôt.
Voilà, et vous nous rapporterez une jonquille la semaine prochaine.
CO2, mon amour, une des rares émissions qui ne parle ni de voiture, ni de corrida, mais de nature et d'environnement, avec Denis Chessou. Ah, au fait, moi, c'est Renaud. Ta-ta-tain.
Voilà, et Renaud, eh bien, pourquoi ? Parce que ce sera l'invité de la semaine prochaine. Il y aura Jean-Marie Pelt, oui, on n'a pas pu le faire passer aujourd'hui, Jean-Marie. Et il y aura donc Renaud la semaine prochaine dans votre émission préférée qui va vous emmener après Tchernobyl. Nous allons aller avec vous, Anne Chaon, en Guyane. Et on a une biodiversité extraordinaire chez nous, donc en Guyane. Et dans cette grande forêt primaire à 20 km du littoral, qu'est-ce qui risque d'arriver, Anne Chaon ?
Là, on revient exactement dans la problématique énoncée par Nathalie à l'instant sur la culture du risque et la prévention du risque, car on est face à une catastrophe annoncée. La seule bonne nouvelle, c'est qu'on peut encore l'éviter.
Ah, alors, bon. De quoi s'agit-il ?
Alors, je vous plante le décor. Donc, oui. La Guyane, territoire français d'Amérique du Sud, la surface à peu près du Portugal, 190 000 habitants, un taux de chômage d'un habitant sur quatre. Mm-hmm. Ce n'est pas inintéressant, parce que quand... Une société se propose de monter un projet économique qui pourrait éventuellement remédier à ce taux de chômage, ça vaut le coup qu'on l'écoute. Sauf que là, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons une société minière canadienne, Cambior, qui a acheté 3000 hectares, qui dispose d'une concession minière de 3000 hectares, et son projet, c'est évidemment d'aller chercher l'or jaune sous l'or vert.
D'accord.
Le décor
planté. Donc ce serait une mine à ciel ouvert.
Alors, hein. Ce serait une mine à ciel ouvert sous la forme de deux grandes fosses de 160 mètres de profondeur. On est là quand même à 45 km au sud de Cayenne, dans le parc naturel régional de Guyane. On est, comme vous le disiez, dans une zone d'une richesse naturelle, flore et faune absolument unique. Non seulement cette forêt primaire de Guyane est considérée comme les botanistes, comme celle qui a les meilleures chances de survie actuellement dans le monde, mais elle est aussi le sanctuaire des derniers caïmans noirs, de plus de 250 espèces d'oiseaux, de plus de 100 espèces de mammifères,
de
700 espèces de végétaux. J'ai ma liste là, puis alors je vous passe les insectes, des milliers, mais les insectes, personne ne les aime. Donc si on regarde les choses comme ça, c'est l'enfer vert pour l'homme blanc, avec 4 litres de flotte qui vous tombe dessus au mètre carré chaque année. Mm-hmm. Sauf que c'est aussi un enfer vert dont les Indiens palicours se sont toujours fort bien accommodés. Or, le projet de Cambior passe à travers le territoire des palicours et par le biais d'une route de 16 km. Pourquoi c'est grave ? Parce que chercher de l'or, ça n'est pas ramasser des cailloux et les épousseter à la brosse à dents, c'est acheminer pour le projet qui nous intéresse quelques 30 000 tonnes de toxiques. Alors, on en fait beaucoup, c'est vrai, vous le disiez, on a tendance à exagérer sur le mercure, le cyanure, l'arsenic.
Oui, c'est pas grand-chose.
Faut pas non plus. Bon, l'arsenic, d'où vient-il ? Eh bien, quand on va remuer
demandez
comme ça...
Demandez aux gens de le salsigner dans l'eau, où effectivement
cette mine a été
terminée.
Eh bien, j'allais y aller, vous allez me couper ma chute. J'allais y venir. Pourquoi c'est grave ? Parce qu'on est en train d'aller saccager là-bas un territoire d'une richesse naturelle inouïe. C'est une chose. Pourquoi c'est grave ? Parce qu'on va le faire ailleurs que chez soi. On a fermé cette mine de Salsigne pour les mêmes raisons. Elle est près de Carcassonne. Elle a été fermée en 84 pour les mêmes raisons. Aujourd'hui, que voit-on ? Des taux de cancer de la gorge et du larynx qui sont de 80% à 110% supérieurs à la normale. Et on irait faire ça dans un territoire français à l'autre bout du monde. Alors, monsieur le président de la République, est-ce qu'on peut dignement parler de développement durable et s'affoler à l'idée que la maison brûle en 2002 à Johannesburg et donner son feu vert à un projet qui est tout sauf durable. Cambior le dit lui-même, c'est un projet d'une durée de vie maximale de 7 ans. Dans 7 ans, ils auront tout ratissé. Ils laisseront derrière eux deux trous béants, 12 000 tonnes de roches et de végétation arrachées et pour un bénéfice de combien ? Combien ? 310 emplois qu'ils ne sont pas sûrs de pouvoir... fournir localement. Cambior, qui a des mines au Suriname et en Guyana, vient de fermer une mine au Suriname et va probablement faire importer cette main-d'œuvre. Donc, bénéfice pour la Guyane. Emploi quasi zéro. Revenu quasi zéro. L'or part à l'exportation et dans des conditions d'opacité quasi totale. Par ailleurs, dans son projet, dans son autorisation, dans sa demande de permis, Cambior demande des exonérations fiscales, mais sur les taxes du carburant également, ce qui ferait, d'après le calcul des Verts de Guyane, une exonération totale et un manque à gagner pour le territoire d'environ 70 millions d'euros.
Merci de nous avoir donc alerté sur cette mine, donc qui n'a pas encore vu le jour, on le dit. Hein,
qui n'a pas encore vu le jour. Alors la raison pour laquelle je vous en reparle, parce qu'effectivement les demandes de permis ont été déposées en septembre, c'est pas un perdre du mois, c'est que l'Union internationale pour la conservation de la nature, qui n'est quand même pas une bande de gauchistes excités, mais des gens extrêmement sérieux, ça regroupe des États, des experts, des organismes spécialisés. L'UICN s'est saisi du dossier cette semaine en relayant la pétition de plus de 20 associations association guyanaise qui demande que ce projet ne voit jamais le jour. Et l'UICN est donc monté au créneau cette semaine et c'est la raison pour laquelle il faut peut-être que les Français qui ne sont pas de Guyane commencent aussi à s'intéresser aux risques qui guettent ce territoire.
C'est chez nous tout ça, c'est absolument. On va faire un petit tour du côté du banc d'Arguin avec vous, Claude-Marie Vadreau. On ne parle pas du banc d'Arguin qui se trouve du côté d'Arcachon, hein. on va aller en Mauritanie. Et j'ai presque envie de dire, vous les oiseaux, levez la patte gauche et dites, je le jure, est-ce que vous êtes porteur de la grippe aviaire ou pas?
Voilà. Bien, j'ai séjourné une quinzaine de jours avec les scientifiques du CIRAD au banc d'Arguin, qui est un extraordinaire parc national de Mauritanie, avec entre 2 et 3 millions d'oiseaux qui se promènent par là. Et ce que je peux vous dire, en accord avec les scientifiques, c'est que les oiseaux migrateurs sont innocents.
Oui.
Ce ne sont pas eux qui propagent la grippe aviaire. Vous savez, les oiseaux migrateurs, c'est un peu comme le procès d'Outreau. Il y avait des experts et des journalistes qui se sont proclamés experts et puis qui ont condamné les oiseaux migrateurs parce que c'était la plus simple façon de régler le problème de la propagation de cette maladie. Alors qu'on sait bien, au Nigeria notamment, que c'est l'importation de poussins d'un ou deux jours, plus ou moins frauduleuse, qui a propagé cette maladie. Donc,
c'était aussi la concentration des oiseaux en Chine. Hein,
tout bien sûr. Voilà. Ouais. Ils sont innocents, les oiseaux migrateurs.
Donc voilà, et puis alors, après les oiseaux, ça va être plutôt les noms d'oiseaux. On va partir dans une petite commune qui s'appelle Arbas. Arbas, c'est très joli, c'est dans les Hautes-Pyrénées. Vous avez le col du Portet d'Aspet qui n'est pas loin. Vous avez la vallée de Belle-Longue. C'est comme ça que Napoléon, un jour, en passant par là, l'a nommé. Parce qu'il s'est dit, ah tiens, elle est belle, elle est longue. Ah bah, on va l'appeler Belle-Longue. Bah, très bien. Et on est du côté de Saint-Gironde et de Saint-Gaudens, dans les Hautes-Pyrénées. On va retrouver son maire, François Arcangeli, bonjour.
Bonjour, Denis Chesson.
Alors, on revient vers vous parce que la semaine dernière les anti-ours ont cassé, ont vandalisé votre mairie, donc c'était le 1er avril, c'était pas drôle du tout. Et aujourd'hui, il y a quand même heureusement pas mal de soutien en ce 8 avril, vous avez fait une belle manifestation bien pacifique avec un grand pique-nique. Donc racontez-nous effectivement quand même très très vite ce qui s'est passé et surtout c'est l'avenir qui nous intéresse aujourd'hui.
C'est vrai que samedi dernier, on a assisté à un déferlement de haine et de violence. Une manifestation contre l'ours était annoncée. Moi, j'étais venu à la mairie pour accueillir une délégation et pour pouvoir échanger sur ce débat. Et puis, en fait, très clairement, les manifestants étaient venus pour casser. Ils ont à peu près tout cassé. Ils ont badigeonné de sang la façade de la mairie. Et ils ont fait brûler une belle statue d'ours que l'on avait là depuis quelques années, qui était un petit peu le symbole de notre engagement.
Parce que, pardonnez-moi, j'ai quand même oublié de le dire, c'est quand même important. Arbas est une des communes qui va recevoir des ours slovènes et donc ces ours après vont être lâchés.
Tout à fait. D'ailleurs, puisqu'il sera votre invité, je salue Renaud qui nous a fait l'amitié de parrainer cet ours qui va arriver dans notre vallée dans les prochaines semaines.
Alors, vous avez rendu votre carte du Parti Socialiste parce qu'il y avait aussi des élus qui manifestaient contre vous et contre l'ours.
Écoutez, c'est vrai que les gens manifestent, même un écharpe tricolore, ça peut tout à fait se concevoir. Dès lors qu'il y a des violences et vraiment des violences verbales, des menaces de mort, des gens qui pillent, qui bousculent les passants, il y a quelqu'un on a un retraité qui est parti à l'hôpital, et qu'on a au milieu de cette horde sauvage des élus en écharpe tricolore, c'est vrai que c'est absolument inacceptable. Et plus encore pour moi, qui suis au Parti Socialiste et qui avait en face de moi essentiellement des membres qui représentent
élus du même
parti, c'est effectivement quelque chose qui est absolument insupportable.
Alors profondément, c'est l'expression de quoi ? On le sait, il y a aussi du désespoir absolument dans les vallées, il y a des espoirs de la part des éleveurs, donc ça c'est assez connu, mais est-ce que l'ours est aussi un bouc émissaire ? Ça peut être aussi un avenir quand même pour un territoire ?
Bien sûr, nous ça fait longtemps, ça fait des années qu'on travaille à ce renforcement de la population d'ours et en même temps on travaille avec les éleveurs, on travaille avec les professionnels du tourisme, avec toutes les forces vives de nos vallées pour faire un développement durable qui soit un petit peu respectueux à la fois de notre environnement et des gens qui y travaillent et des gens qui y habitent. Mais voilà, il y a effectivement des gens qui sont un petit peu radicalisés, des gens qui sont encouragés parce que l'association qui organisait ces exactions a quand même le soutien politique du Conseil général de l'Ariège, le soutien financier au travers d'énormes subventions qu'ils reçoivent du Conseil général de l'Ariège. Et là, très, très clairement, il y avait le soutien physique de moins deux vice-présidents du Conseil général. Donc il y a effectivement un vrai problème politique et effectivement, l'ours est devenu le bouc émissaire pour faire passer des messages qui n'ont absolument rien à voir avec la problématique sur l'ours.
Alors parlons d'espoir maintenant, effectivement. Demain, donc François Arcangeli, on ne sait pas exactement quand donc, ces ours slovènes vont pouvoir gambader, partir dans le Couseran, donc derrière chez vous. C'est au courant, on va dire, mois de mai, mois de juin à peu près
Écoutez, on va dire que la fenêtre de tir qui figure dans le protocole entre la France et la Slovénie qui offre les ours, c'est entre le 15 avril et la fin du mois de juillet. On espère que les choses se passeront relativement vite. Les captures, en fonction des conditions météo, pourraient commencer dès la mi-avril. Et la date du lâcher du premier ours sur la commune d'Arbas ne sera connue finalement que quelques heures avant le lâcher, puisqu'il faudra pour cela que l'ours, puisque c'est une femelle, aura été capturée avec succès en Slovénie, qu'elle corresponde aux critères d'âge, de santé, puisqu'il y a toute une série d'examens vétérinaires. Et si tout cela est positif, et bien elle sera acheminée jusque dans notre village, dans notre vallée. Elle sera lâchée au petit matin.
Bien qu'il y ait quelques origines, donc pas loin de chez vous, moi j'entends assez souvent dire « Mais oui, Marsas, évidemment, ce sont des arguments d'écologistes parisiens. Laissez-nous faire avec l'ours sur place. » Je crois qu'on a un petit peu dépassé ça maintenant.
Mais très clairement, c'est vrai que pendant longtemps, on nous a rétorqué qu'était pour l'ours les gens de la ville et contre ceux des vallées. En fait, d'abord, moi, je suis maire d'une commune de montagne des Pyrénées centrales dans la Haute-Garonne et autour de moi, je vois beaucoup de gens qui sont très favorables et toutes les études d'opinion ont montré que la population, jusque dans les communes de montagne, était très favorable puisque, quand on prend la Haute-Garonne, on a 80% d'opinion favorable. Alors, bien entendu, il y a Toulouse, mais quand on zoome et que ces sondages se portent uniquement sur les communes de montagne, on n'est jamais en dessous de 2 habitants sur 3. Donc l'adhésion au programme est extrêmement forte de toutes parts, mais effectivement il reste une partie de la population et probablement des éleveurs qui connaissent quelques problèmes effectivement dont il faut parler, sur
lesquels il faut
travailler, mais sur lesquels il faut parler, parce que c'est certainement pas en mettant le feu à un village que ces gens-là vont faire avancer l'argument.
Alors, bonne manifestation pacifique, bon pique-nique, il doit se terminer d'ailleurs, François Arcangeli. Merci à vous. Fabrice
Merci
Nicolino,
beaucoup.
Vous connaissez bien le sujet aussi.
Oui,
oui. Oui, bonjour à vous. On s'était vu il y a un petit moment, d'ailleurs à Arbas même. Donc, je vous salue, bien entendu. Et je suis à vos côtés, vraiment sans aucun problème. Ce que je voulais dire, c'est que ce qui apparaît aussi très clairement là, c'est que, et François Arcangeli l'a dit, c'est une toute petite minorité, en fait, qui s'oppose réellement à l'ours. Il y avait 200 personnes, avec tout le raffut qui avait été fait, 200 personnes qui sont retrouvées à Arbas. Et ce qui aussi me paraît très important, c'est que là, on voit le Parti socialiste se fracturer, en fait, entre les vieux notables, sans que ce soit péjoratif, disons, les notables socialistes de l'Ariège contre...
Ça leur fait une raison
d'autres,
de plus,
d'autres militants socialistes. Et donc, cette fracture, elle n'est pas seulement à l'intérieur du... Il ne s'agit pas, pour moi, fondamentalement, d'une fracture politique, parce qu'on la retrouve dans le Parti socialiste, on la retrouve dans la Confédération paysanne, parce que les opposants les plus acharnés sont dans la Confédération paysanne, et ceux qui sont pour une cohabitation avec l'ours sont aussi dans la Confédération paysanne. On retrouve cette opposition chez les bergers eux-mêmes. Et en fait, moi, je pense qu'il vaut mieux parler d'une sorte de fracture anthropologique. C'est beaucoup plus profond, me semble-t-il, parce qu'il y a d'une part des gens qui acceptent l'idée d'une cohabitation avec l'animal et avec le sauvage, et ceux qui la refusent totalement. Et moi, la question que je me pose, que je pose à tout le monde, c'est comment imaginer la défense de la biodiversité? Comment imaginer défendre la vie sur Terre, les éléphants en Afrique, si on n'est pas capable de défendre les ours et les loups chez nous? Ça me paraît complètement farfelu. On a cohabité avec l'ours dans des vallées qui étaient infiniment plus peuplées qu'aujourd'hui. Oui. On a cohabité pendant des milliers, des dizaines de milliers d'années dans les Pyrénées, avec beaucoup plus d'ours et beaucoup plus d'hommes dans les vallées. Aujourd'hui que les vallées sont dépeuplées, on ne supporte même plus la présence de quelques animaux sauvages. C'est insupportable.
Anne Chéron.
Eh bien voilà, c'est exactement ça. Je trouve qu'on est là face à un problème de morale, quelque part, et aussi de cohérence. C'est qu'on ne peut pas pleurer sur la disparition du rhinocéros blanc ou du caïman noir de Guyane et s'asseoir sur le sort de l'ours dans les Pyrénées. L'ours, il a toujours été là. S'il disparaît, effectivement, ni vous ni moi, on vivra plus mal. Mais en ce cas-là, on peut se fiche aussi complètement de la disparition du crapaud doré et des milliers d'insectes. On ne peut pas à la fois demander aux pays du Sud de faire un effort pour préserver leurs richesses naturelles, faune et flore, et puis nous, avoir l'air de dire que pour convenance personnelle ou convenance pastorale ou agricole, on n'aura plus d'ours dans une région qu'on a toujours connue.
Et en allant plus loin, c'est aussi peut-être se sauver nous-mêmes, les uns les autres. Dans les nouvelles sympathiques, là, tenez,
ah oui, moi j'ai gardé les bonnes nouvelles pour la fin.
Mais oui. Science et Vie Junior, un numéro hors série, on travaille régulièrement avec eux, donc là, ils ont fait un dossier très sympa. Comment on va sauver la Terre? On va prendre trois petits points très rapidement, Anne-Chéron.
Oui, ben voilà, moi je crois qu'il faut faire confiance aux géotrouve-tout qui fourmillent d'idées et qui sont en train, si ce n'est de sauver la Terre, en tout cas d'empêcher peut-être qu'on l'altère davantage. Ouais. Alors dans les trois idées que j'ai gardées et que je souhaite vous faire partager, on a en Australie, dans l'état du Queensland, une société qui fournit de l'électricité à 1200 familles avec les coquilles de noix de macadamia. Alors croquez vos noix à l'apéro, eux récupèrent les coquilles, oui. Et ces coquilles, en les brûlant, servent à alimenter la centrale électrique. Et avec 5000 tonnes de coquilles, on éclaire 1200 familles.
Ben c'est pas mal.
C'est pas mal. J'ai encore d'autres choses.
Bien sûr, c'est une application locale. On y va.
Voilà, parce qu'en Écosse, avant qu'on ait trouvé le moyen de récupérer peut-être l'énergie dégagée par la queue de Nessie, on a une compagnie écossaise qui a tendu des boudins en travers de la baie pour récupérer l'énergie des vagues. Alors, elle a tendu comme ça 4 boudins de 3,50 m à peu près de diamètre, qui à chaque oscillation déclenche une petite pompe. C'est le principe de l'électricité sur votre vélo, mais là ça ne met pas en marche la roue mais la centrale électrique, et avec un boudin, elle éclaire 500 familles, elle fournit d'électricité à 500 familles.
Donc mieux que le monstre du Loch Ness.
Mieux que Nessie, jusqu'à ce qu'on l'ait domestiqué, qui sait, certainement. Bon. Et puis alors, le dernier point, et là j'ai une tendresse particulière pour cet exemple, et je dois dire qu'il a beaucoup intéressé mes fils, vous allez voir pourquoi. Ça nous ramène en Afrique et plus particulièrement au Rwanda, un pays qui s'est illustré malheureusement pour son génocide en 94. Et l'un des stigmates évidemment de ce génocide, une des plaies béantes, c'est des prisons avec 120 000 prisonniers dans les geôles. Eh bien, pour finalement les faire travailler, ces gens, voilà ce que les autorités rwandaises ont mis au point. Elles récupèrent les eaux usées des toilettes, on y revient, dans des grandes fosses de briques où les attendent des légions de bactéries en ordre qui vont fermenter, les faire travailler, toute cette matière travaille avant et dégage du méthane. Alors évidemment, mes fils ont entendu parler du méthane grâce aux prouesses des bovins.
Bien sûr.
Le méthane terrible quand on le relâche dans l'atmosphère, mais quand on le recycle immédiatement pour chauffer les cuisines de des geôles, eh bien ça permet d'économiser autant de bois. Et le système marche tellement bien que le lycée de Kigali s'en est également emparé. Et au lycée de Kigali, les eaux recyclées des toilettes servent non seulement à alimenter les cuisines, mais également les becs de benzène des salles de chimie.
Ouais, voilà. Eh bien, écoutez, on avait parlé aussi de méthanisation avec l'abbaye de Tamir il y a quelques semaines dans cette émission. On va faire, là ça pourrait être vraiment des nouvelles complètement positives, mais c'est vrai que Claude-Marie Vadreau aux éditions de la Chaux et Nestlé, a écrit Guerre et environnement, panorama des paysages et écosystèmes bouleversés. Peut-être un petit point sur Israël, la bande de Gaza et la Cisjordanie. On se doute bien que l'état écologique de ces régions est quand même pas fameux aujourd'hui.
Bien, comme dans beaucoup d'endroits dans le monde, mais quand je pense à Gaza et à la Cisjordanie, indépendamment des morts palestiniens, des morts israéliens, des femmes et des enfants qui souffrent, il y a là un environnement totalement bouleversé. C'est-à-dire que l'état de la pollution de l'air, l'état de la pollution de l'eau, l'état des déchets laissés partout, étant donné la guerre qui a lieu dans ces endroits, est absolument indescriptible. Et vous avez le fameux mur dont on parle bien souvent. Bon, il va séparer les hommes, mais il est une véritable coupure à travers un territoire naturel.
C'est le contraire d'un corridor biologique. Hein,
c'est le contraire d'un corridor biologique. Et on parlait tout à l'heure des oiseaux migrateurs. Eh bien, il n'y a pas si longtemps que les oiseaux migrateurs qui se rendaient en Afrique de l'Est se posaient à Gaza ou en Israël. Maintenant, ils ont totalement déserté les lieux. Et je crois qu'il y a beaucoup d'endroits dans le monde où, après les guerres, après les guérillas, pendant des années, vous avez une destruction et de la nature et l'environnement. Alors, c'est pas pour la nature seulement, pas pour l'environnement seulement, mais c'est pour les gens qui vivent dans ces écosystèmes totalement bouleversés par les guerres.
Vous racontez très très bien aussi donc, ces milliers d'arbres que l'on sait déraciner donc, pour agrandir la zone de sécurité en, frontière, en zone frontière hein, donc, du côté de Gaza. Donc là, vous avez des oliviers, des arbres fruitiers qui n'existent plus.
Qui disparaissent. Ouais. C'est-à-dire que la terre n'est plus tenue, il y a des phénomènes d'érosion absolument extraordinaires.
Alors, on va rester dans le domaine végétal parce que vous avez rencontré, vous, Fabrice Nicolino, au cours d'un de vos reportages dans les Alpes de Haute-Provence, un homme assez extraordinaire qui s'appelle François Couplan. Vous avez marché avec lui et il vous a raconté des choses assez géniales. Il a sorti un livre d'ailleurs, il n'y a pas tellement longtemps.
Oui, il en sort beaucoup. Il a sorti un livre chez Plon, là, ces plantes qui sauvent les hommes, je crois. C'est le récit de sa vie. Alors, Couplan, c'est un type vraiment, vraiment étonnant qui a passé en autodidacte à la sauvage, en quelque sorte, un doctorat, grâce d'ailleurs à Yves Coppens. C'est un type qui n'est pas passé du tout par l'université. Il a passé un doctorat avec une thèse sur le régime plausible. J'allais dire des hommes, le régime végétal plausible des hommes à l'époque du paléolithique, donc il y a plus avant et après l'invention du feu. Et c'était un botaniste tout à fait extraordinaire, un connaisseur hors pair des plantes sauvages comestibles. Et vraiment, on peut dire que c'est un des meilleurs connaisseurs de ces plantes sauvages comestibles. Et ce que j'ai découvert avec lui, je le savais pour l'avoir lu dans ses bouquins, mais j'ai découvert réellement ce que ça veut dire que de manger des plantes qu'on découvre, sur lesquelles on marche. C'est-à-dire on se balade avec lui, si vous voulez, on se balade avec lui dans un coin des Alpes de Haute-Provence qui est absolument sensationnel. On marche et puis il s'arrête, il s'accroupit, il arrache des plantes, il pousse souvent un cri d'extase parce que il ne l'avait pas vu le jour d'avant. Il en mange immédiatement sous vos yeux, il vous en fait goûter. Ensuite, on rentre chez lui, on fait des plats à base de plantes qu'on a ramassé, et c'est vraiment tout à fait extraordinaire. Surtout quand on voit que parfois des plantes, qui sont considérées comme des mauvaises herbes, que tout le monde veut arracher, dont tout le monde veut se débarrasser, en fait, sont absolument extraordinaires à manger.
Et puis, vous a rappelé aussi que les Irlandais, donc en 1846, quand il y a eu cette famine absolument épouvantable, donc les pommes de terre n'existaient plus, en fait, sont morts. Et si on avait plus connu en fait, cette relation sûr, avec les plantes, les choses auraient changé.
C'est sûr. Ben, ce qu'il dit et qui est sensationnel aussi, je m'excuse d'employer ces mots qui sont forts, mais je les ressens comme ça. Ce qu'il dit, c'est que les Irlandais sont morts de faim au milieu d'un gigantesque garde-manger. Et en fait, sans aucun doute, une grande partie, je rappelle qu'il y a environ 1 million d'Irlandais qui sont morts de faim au coin des champs en 1846. Et donc, il dit que le savoir des plantes s'était perdu, ce savoir accumulé par les hommes pendant des milliers d'années avait disparu en seulement quelques générations. Et que si les Irlandais s'étaient souvenus qu'on peut manger des plantes sauvages comestibles qui sont partout, eh bien, beaucoup d'entre eux auraient pu être sauvés. Et je pense que c'est une leçon, évidemment, pour nous tous.
Et François Couplan ne le sait pas encore, mais il sera invité bientôt.
C'est une bonne idée.
Voilà, vraiment. En juin et en juillet, on va passer une heure formidable avec lui. Comme nous l'avons passé avec vous, avec des nouvelles aussi bien pimpantes, joyeuses, pleines d'espoir, mais aussi c'est la réalité. Oui, Claude-Marie Vadrault.
Je voudrais faire une dernière remarque, Denis Chessou. On a dit des choses très graves, là.
Ben oui.
Ça serait très bien si on avait un ministre de l'Environnement en France.
Formidable. D'accord. Eh bien, écoutez, on va encore se faire des copains, c'est très très bien. Claude-Marie Vadrault, merci à vous. Fabrice Nicolino également. Nathalie Fontrelle qui nous a écoutés. Et puis donc Anne Charon de l'AFP, merci beaucoup. On reviendra, merci. On fera ces rondes de journalistes avec une parole extrêmement libre, vous l'avez compris. Anne-Laure Cochet, Éric Morin étaient aujourd'hui à la technique avec nous. Assisté de Jean-Baptiste Audibert, c'est Xavier Pestugia qui réalisait cette émission. On a passé deux disques choisis par Karl Levasseur. Et puis donc la semaine prochaine, vous l'avez compris, alors il y aura Jean-Marie Pelt, nous parlerons de la pollinisation par les abeilles, mais surtout comment les abeilles voient-elles? Vous êtes-vous déjà posé la question? Comment voient les abeilles? Eh bien, Jean-Marie répondra. Et puis donc l'invité central, ce sera Renaud Tagada, donc qui sera avec nous et qui n'a pas non plus sa langue dans sa poche. Denis Chessou, je vous souhaite un excellent week-end et dans quelques instants, ce sera Le Monde selon WAM. Isabelle Giordano, possibilité pour vous de réécouter notre émission, vous le savez, pendant une semaine, voire de la podcaster, comme on dit en français. Salut à tous, France Inter, il est 15h.